Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Le pape François se prête de bonne grâce au jeu des questions-réponses avec les enfants des écoles jésuites d'Italie et d'Albanie. Se contentant de résumer le discours prévu, il s'est ensuite confié sur différents aspects de sa vie pour le plus grand bonheur de son jeune auditoire. Nous reviendrons sur le document des évêques français sur les familles intitulé « Poursuivons le dialogue ». Entretien avec une des rédactrices de ce texte qui propose de poursuivre ce dialogue autour de la vision chrétienne de l'homme, la spécificité du mariage catholique et le sens de l'amitié. Une pétition européenne pour défendre l'embryon humain, une initiative qui a déjà convaincu 500 000 de personnes à travers toute l'Union européenne. On en parle avec le président d'Alliance Vita. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. La salle Paul VI au Vatican avait presque des allures de cours de récréation. Ce vendredi matin, quelques 9000 élèves venus d'écoles jésuites d'Italie et d'Albanie, ainsi que des mouvements de jeunesse ignatienne, ont été reçus au Vatican, âgés entre 6 et 18 ans. Ils ont rencontré le pape François, le premier pape jésuite, qui n'a pas voulu lire son discours qu'il a remis aux provinciaux présents. Un texte qui rappelle cependant avec clarté le rôle de l'école, les valeurs qu'elle doit enseigner et la fonction des éducateurs. Texte sur lequel nous revenons dans un premier temps avec Bernard de Cotigny.
Saint Ignace et ses premiers disciples avaient compris que Jésus leur enseignait comment vivre bien, comment réaliser une existence qui ait un sens profond, qui donne enthousiasme, joie et espérance. D'emblée, le pape François a placé son discours sous les auspices de saint Ignace, rappelant que Jésus est un grand maître de vie et un modèle de vie. Et chez les jésuites, l'école est primordiale pour devenir des hommes et des femmes adultes et matures, capables de parcourir la route de la vie. Pour le pape, l'élément principal est apprendre à être magnanime, c'est-à-dire avoir le cœur grand, avec une grandeur d'âme, de grands idéaux pour répondre à ce que Dieu nous demande. Et les écoles jésuites enseignent plus particulièrement la loyauté, le respect, la fidélité et l'engagement. La liberté, notamment, a souligné le pape, est de savoir réfléchir sur ce que nous faisons, ça veut dire choisir toujours le bien. Concernant une autre valeur fondamentale, le service, le pape a exhorter ses auditeurs à être des hommes et des femmes avec les autres et pour les autres, de vrais champions dans le service aux autres. La formation spirituelle est nécessaire pour être magnanime dans la prière, dans le dialogue avec Jésus, dans la lecture de la Bible. Découvrez que Jésus est vraiment proche. Apprenez aussi à lire les signes de Dieu dans votre vie, expliquait le pape. S'adressant ensuite aux éducateurs, il les a invités à être des témoins avec leur vie de ce qu'ils communiquent. Sans cohérence, il n'est pas possible d'éduquer. Il les a également encouragés à chercher de nouvelles formes d'éducation non conventionnelles selon les nécessités des lieux, de l'époque et des personnes. Improvisant aussi, le pape leur a conseillé de bien équilibrer leurs pas, un pas vers ce qu'il appelle la zone de sécurité et un autre vers la zone de risque. On ne peut pas seulement éduquer en restant dans la zone de sécurité, si on y reste, on empêche les gens de se développer.
Bernard de Cotigny. Et cette rencontre fut marquée du sceau de l'échange le plus spontané. Dès le début, le pape a donc refusé de lire in extenso son discours pour ne pas ennuyer son jeune auditoire. Il a alors résumé les quelques pages qu'il avait dans la main. Concernant les questions posées par quelques jeunes et éducateurs, là aussi, la rencontre s'est poursuivie sous le signe de la spontanéité. Alors si le pape refuse d'aller habiter dans les appartements pontificaux, eh bien c'est parce qu'il a besoin de vivre parmi les gens. Si je reste isolé, je ne ferai pas bien mon travail, a-t-il confié, ajoutant, sur le ton de la plaisanterie, qu'un professeur lui avait déjà posé cette question et qu'il avait alors répondu « c'est pour des raisons psychiatriques que je n'habite pas dans les appartements, donc pontificaux ». Le pape s'est fait en revanche plus sérieux quand une jeune fille de Naples lui a demandé ce qu'il avait à dire aux jeunes qui sont confrontés à la crise qui touche de nombreux pays européens. Le pape François, revenant sur l'essence même de la crise, a déclaré qu'il s'agissait d'une crise de la personne. Il a alors dénoncé le fait que seul l'argent compte, reprenant une ancienne qu'il a déjà développée à de nombreuses reprises ces derniers jours et ces dernières semaines. Répondant à d'autres questions, il a rappelé que le devoir du chrétien et de travailler pour le bien commun. À la fin de cette rencontre émouvante avec ses enfants qui lui ont témoigné tout leur respect et leur amour, n'hésitant pas même à le tutoyer, le pape François a exhorté toute l'assemblée à ne pas se faire voler l'espérance. L'espérance se trouve dans le Jésus pauvre et de ce point de vue, la pauvreté sert à semer l'espoir, a-t-il conclu. Dans son tweet quotidien, le pape a en quelque sorte résumé un point fort de son intervention de ce vendredi matin, reprenant également ce qu'il avait déclaré pendant l'audience générale mercredi. Le consumérisme nous a conduit à nous habituer au gaspillage, mais jeter la nourriture, c'est comme voler les pauvres et les affamés. Il est difficile de se laisser aimer par le Seigneur avec tendresse. Constatation du pape François ce vendredi matin lors de la messe célébrée dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican en la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Une fête, a déclaré le pape, qui est la fête de l'amour d'un cœur qui a tant aimé. Les précisions d'Hélène Détombe.
Jésus nous a tellement aimés, non pas en paroles, mais par ses œuvres et sa vie. Le pape François cite saint Ignace de Loyola, pour qui l'amour se manifeste plus dans les actes que dans les paroles et consiste plus à donner qu'à recevoir. Ces deux critères, a expliqué le pape François, sont les piliers du véritable amour. Comme bon pasteur, porteur de tout l'amour de Dieu, Jésus connaît ses brebis une par une, parce que l'amour, souligne le pape, n'est pas un amour abstrait ou général, c'est un amour vers chacun d'entre nous. Dieu se fait proche par amour, il marche avec son peuple, mais fait remarquer le pape, cet accompagnement arrive à un point tout simplement inimaginable. En effet, il faut se souvenir que le Seigneur se fait l'un de nous, marche avec nous, reste avec nous, reste avec son Église, reste dans l'Eucharistie, reste dans sa parole, reste dans les pauvres, reste avec nous dans notre cheminement. Et c'est donc une proximité. Le pasteur est auprès de son troupeau, de ses brebis qu'il connaît une par une. Donc le Seigneur nous aime avec tendresse. Le Seigneur connaît cette belle science des caresses, cette tendresse de Dieu. Il ne nous aime pas seulement en parole, il s'approche de nous dans une grande proximité et il nous offre cet amour avec tendresse.
Hélène Détombe. Et toujours au Vatican, le pape a reçu ce vendredi les lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Arménie près le Saint-Siège, Mikhail Minassian. Et samedi, le pape François rencontrera le président italien Giorgio Napolitano. Première visite officielle du chef de l'État italien au pape François. Au Pakistan, les chrétiens et les autres minorités religieuses du pays sont inquiets après l'élection au poste de Premier ministre de Nawaz Sharif, le président du PMLN, un parti islamiste qui a déjà été au pouvoir dans le passé. C'est ce que rapporte l'agence Église d'Asie, qui souligne qu'aucune amélioration en ce qui concerne les lois anti-blasphème n'est à attendre. Selon un prêtre catholique de Faisalabad, Nawaz Sharif est un fondamentaliste et un conservateur. Déjà le 30 mai dernier, des leaders politiques chrétiens et chiites avaient dénoncé sa vision religieuse fondamentaliste et ses liens étroits avec des groupes islamistes. Le Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France, présidé par Mgr Brunin, évêque du Havre, a publié un texte mardi intitulé « Poursuivons le dialogue », destiné à donner aux délégués diocésains à la pastorale des familles des éléments de discernement et des pistes de travail pour poursuivre la réflexion sur la famille dans le contexte actuel français. Ce texte met en lumière les points positifs qui se dégagent des débats et propose de poursuivre le dialogue autour de la vision chrétienne de l'homme, la spécificité du mariage catholique et le sens de l'amitié. Monique Bojard fait partie du Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France. Elle a participé à l'élaboration de ce texte.
Ce débat a quand même beaucoup agité la société française tous ces derniers mois. Donc il est temps, en fait, de voir aussi ce que ce débat, qui a parfois déchiré des personnes et des communautés, a apporté de positif. À la fois, il faut apprendre qu'en démocratie, on peut aussi se trouver en minorité. C'est un exercice qui n'est peut-être pas toujours agréable, mais c'est ça, la démocratie. Et puis, aussi dégager de ce débat, quand même, l'intérêt porté à l'enfant. Et notamment, la décision qui a été rendue pour le Conseil constitutionnel a même érigé l'intérêt de l'enfant en exigence constitutionnelle. Donc c'est quand même un point positif qui ressort de tous ces débats, de dire que dans toute loi et dans toute justement décision d'adoption, cet intérêt de l'enfant doit être pris en compte. Alors, on peut toujours être en désaccord avec ce que la loi a décidé à ce sujet, mais enfin, souci de l'intérêt de l'enfant a quand même aussi été entendu. Et puis, le troisième point sur les points positifs qu'on souligne, c'est-à-dire que ça a quand même fait ressortir la nécessité dans la société, comme dans les communautés catholiques, d'avoir une plus grande attention à l'accueil des personnes homosexuelles. Et que sur ce terrain-là, il y a peut-être encore des progrès qui peuvent être faits.
Des progrès à faire, notamment dans l'Église catholique?
Oui, je pense que les personnes souvent cachent cet aspect de leur vie dans les communautés catholiques parce qu'elles trouvent ça difficile, parce que peut-être aussi elles redoutent l'accueil ou l'hostilité qu'elles peuvent rencontrer. Mais en même temps, bon, beaucoup de progrès est fait et puis vous avez des associations aussi qui œuvrent justement pour ça, hein, pour un meilleur accueil, un meilleur accompagnement pour les personnes homosexuelles, pour aussi vivre avec cette orientation sexuelle bon, qu'elles découvrent, avec laquelle elles peuvent être plus ou moins, je dirais, en harmonie ou qu'elles trouvent difficile à vivre. Vous avez en France une association comme, par exemple, comme Devenir un en Christ, qui fait beaucoup pour aider les personnes homosexuelles et les communautés chrétiennes à accompagner ces personnes.
Vous l'avez évoqué en début de cette interview, le document l'a constaté, le débat autour du mariage pour tous a profondément divisé la communauté nationale, mais a divisé aussi, quelquefois, les catholiques entre eux. Il y a un certain malaise, c'est ce que vous avez pu constater, vous aussi ?
Oui, je pense qu'il y a des divisions, je dirais des divisions à l'intérieur des familles, il y a des divisions à l'intérieur des communautés, il y a eu des divisions entre amis, parce que finalement, cette question touche les gens souvent au plus profond d'eux-mêmes. Les gens sont attachés au mariage, et pour d'autres, c'est pas si important que ça. Il y a beaucoup d'incompréhension entre les gens qui sont pour et contre. Et oui, les discussions ont été vives. Il est important, en fait, qu'on puisse s'écouter les uns les autres et qu'on puisse accepter que sur un sujet aussi important, il y a des divergences d'opinion. Mais il est important aussi qu'en tant que catholique, on puisse dépasser de telles oppositions et qu'on voit aussi ce qui nous rapproche et ce qui nous rassemble, sur lequel on peut quand même se retrouver, même si on peut avoir sur la loi, ben, éventuellement, ou sur l'action politique, justement, avoir des divergences d'opinion.
Iriez-vous jusqu'à parler de réconciliation ?
Peut-être ponctuellement, ici ou là. Je n'irai pas jusque-là de façon générale. C'est plus, on est plus dans l'ordre de l'incompréhension. Alors, réconciliation, vous devez dire qu'il y a eu du mal qui a été fait de part et d'autre. Ça peut être vrai, hein, ponctuellement. Je sais que certaines personnes homosexuelles ont été blessées par des propos ou par des attitudes. Il y a peut-être des endroits où, entre des personnes en particulier, que des réconciliations ont besoin d'être faites. De façon générale, surtout ce qu'on constate, c'est une incompréhension entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre cette loi. Donc ceux qui sont pour, c'est vraiment l'égalité des droits qui prévaut et ça leur paraît plus important que le respect d'une institution comme le mariage. Et pour d'autres, l'institution qu'est le mariage est très important et pense qu'en le refusant à des personnes de même sexe, on ne manque pas de respect à la personne. Donc vous voyez qu'on est sur des approches très différentes et il y a vraiment des incompréhensions.
Des propos recueillis par Manuela Affigy. Un sujet qui n'a pas fini non plus de provoquer des débats en France, mais aussi dans toute l'Europe, celui de la défense de l'embryon humain. Et pour le défendre, une pétition en ligne a été lancée par des citoyens européens. Une pétition intitulée « Un de nous ». Elle demande à l'Union européenne de ne plus financer la recherche impliquant la destruction d'embryons humains. Elle s'appuie sur un instrument de démocratie participative qui vient d'être mis en place. L'objectif est de recueillir avant fin octobre 2013 1 million de signatures provenant d'au moins 7 des 27 États de l'Union européenne. Pour l'heure, 500 000 signatures ont été obtenues en Europe, dont 32 000 en France. Le projet est soutenu dans l'Hexagone par la Fondation Jérôme Lejeune, les associations familiales catholiques, le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine et Alliance Vita, dont nous avons joint le président Xavier Mirabel.
On souhaite que l'Union européenne arrête de financer les programmes qui détruisent des embryons humains. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a beaucoup d'argent qui est investi là-dedans, que détruire l'embryon humain, bah, c'est détruire le début d'une vie humaine, et que ça n'est pas acceptable. Et parce que certains pays interdisent ces pratiques et sont pourtant obligés de les financer par le biais de l'Europe, ce qui est quand même très injuste. Donc la contribution française et de tous les pays européens contribue quand même au financement d'un ensemble d'opérations, de recherche, de programmes de recherche qui, eux, sacrifient sans vergogne la vie humaine.
Le contexte en France se prête-t-il au lancement d'une initiative? Y a-t-il une réelle inquiétude aujourd'hui?
Oui, bien sûr, il y a une vraie inquiétude. Il y a une proposition de loi qui a été votée au Sénat qui vise à inverser le fonctionnement de la loi française qui jusqu'à présent n'autorise pas, interdit la recherche sur l'embryon, mais ouvre la porte à quelques exceptions et on partirait sur une autorisation systématique. Donc si cette loi a été votée, elle va arriver bientôt en discussion à l'Assemblée nationale, ce serait vraiment une catastrophe. Dans ce sens-là, un signal fort donné par l'Europe disant « on ne financera pas ces programmes » serait vraiment très intéressant.
Le 12 mai dernier, le pape François demandait la création d'une garantie juridique de l'embryon pour protéger tout être humain. Il a également soutenu votre initiative. C'était un geste particulièrement important et symbolique pour vous.
C'est extraordinaire, oui. Franchement, je pense que tout le monde a été surpris de l'implication aussi précise, pas seulement au niveau des principes, etc., mais précise dans le sens d'encourager à aller participer à cette initiative européenne. Et donc, c'est vraiment un signal très très fort.
Faut-il un statut juridique pour l'embryon et dans quel cadre?
La question est délicate parce que si vous donnez à l'embryon un statut qui est un statut de sous-être humain, à ce moment-là, c'est dangereux. Mais aujourd'hui, la situation est tellement grave pour l'embryon, il est soumis à la recherche, il y a beaucoup de convoitises et donc il faut, dans la mesure du possible, mettre des protections. Alors après, il y a tout un débat juridique pour savoir sous quelle forme, de quelle façon, etc. Donc une grande prudence quand même sur un statut qui serait un statut qu'il mettrait en position de semi-être humain.
Quelle alternative pourriez-vous proposer à cette recherche sur l'embryon humain? Y a-t-il une alternative que vous soutenez?
Si on est contre la recherche sur l'embryon, c'est pas parce qu'on est contre la recherche. Bien au contraire. Exiger une recherche éthique, c'est exiger une recherche plus moderne et plus intelligente. Et donc, il faut rappeler qu'il y a des recherches très prometteuses qui portent pas atteinte à la vie embryonnaire. C'est les recherches sur les cellules souches adultes, les cellules IPS, les cellules reprogrammées. Et donc tout ce champ de la recherche est intéressant, pose jusqu'à présent en tout cas pas ou peu de problèmes éthiques et mérite d'être mis en priorité. Donc il faut défendre une recherche, et il faut défendre une recherche qui respecte l'homme.
Des propos recueillis par Hélène Destombes. Coup d'essai et coup de maître pour la première édition du Festival biblique à Paris. Pendant 3 jours, cette semaine, il a investi le Quartier Latin. Philosophie, sciences, art et poésie étaient au programme pour explorer les racines bibliques de la culture française. Intellectuels, artistes et grand public se sont tous réunis autour d'expositions, de concerts, de lectures et de conférences en rapport avec l'écriture. Retour sur cette première édition avec le responsable du festival, le père Alexis Leproux.
D'études et une expérience de vie quotidienne dans le Quartier Latin, avec des étudiants, avec des jeunes professionnels, avec des familles qui y habitent, qui vivent, qui y passent. Et donc c'était bien un moment ou un autre, je trouvais, de faire résonner ce qui se jouait chez les uns et chez les autres et qu'ils ignoraient souvent. L'enjeu, c'était précisément à travers des étudiants et des jeunes que je connaissais, d'aller chercher des personnes un peu plus lointaines et de les faire résonner ensemble. C'est une expérience vraiment très heureuse, très belle. Tous les gens qui participent sont très heureux. Ils sont surpris de voir de si belles choses et je pense que c'est bien de proposer dans un quartier une alternative à la dimension un peu trop médiatique de nos habitudes et de retrouver un aspect plus villageois, plus pittoresque.
Ce festival a vocation à explorer les racines bibliques de notre culture. Quel lien entre justement la Bible et le monde contemporain le festival a-t-il mis en évidence?
D'abord, c'est des racines bibliques qui sont dans les personnes elles-mêmes. Si je prends comme exemple l'exposition qui est faite par une jeune femme qui travaille la Bible et qui en même temps fait du graphisme et a voulu mettre en couleur son expérience de la Bible. Ça va être la même chose pour les concerts. Ce sont d'abord des expériences personnelles de l'écriture qui montrent que la Bible est enracinée dans le cœur des habitants de cette ville et qu'il est bon de le retrouver.
Et donc, à l'issue de cette première édition, entre justement concerts, conférences et expositions, quels ont été, selon vous, les thèmes les plus marquants?
La présence de la Bible dans l'art est sans doute ce qui marque le plus, c'est ce qui est le plus original, c'est ce qu'on ignore le plus aussi. Il y a beaucoup de lieux d'études de l'écriture dans toute la dimension plus enseignement et habituellement honorée, et les gens le savent assez bien. En revanche, la dimension du chant, de l'art, de la peinture, de l'architecture, cette dimension est plus originale et on est moins habitué à voir la Bible dans ces dimensions-là.
C'était le père Alexis Leproux, joint au téléphone par Jeanne Varaldi. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas notre site internet www.radiovaticana.va ainsi que notre page Facebook Radio Vatican en français. On se retrouve demain, même lieu, même heure.